Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie, Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri comme tous les lundis à 17h.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver.
Aujourd'hui au programme Margaret Thatcher, 1925-2013, un itinéraire hors du commun, parce que nous recevons aussi, pour en parler, l'auteur, c'est M. Serge Basset. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation, merci d'être présent
pour
parler de ce sujet, parce que vous êtes l'auteur d'un livre qui est intitulé, comme l'émission, Margaret Thatcher, 1925-2013, de Graham à Londres, itinéraire d'une fille d'épicier hors du commun, aux éditions Godefroy de Bouillon. Donc c'est un livre qui vient de sortir. Et donc vous êtes professeur agrégé d'anglais, vous étiez à Lyon 2, entre autres. Donc vous avez enseigné l'anglais pendant très longtemps et vous vous êtes penché sur ce personnage hors norme, comme vous dites, hors du commun, dont on a beaucoup parlé en France.
Surtout en mal.
Surtout en mal, j'allais le dire. C'est devenu une obsession. Il y a même une chanson contre Margaret Thatcher, extrêmement méchante, j'allais dire, voire plus que ça. Je me dis, qu'est-ce qu'on aurait dit si un chanteur français avait fait une chanson contre un personnage de gauche européen, dites donc, avec autant de...
Avec autant de hargne, oui.
Voilà. Oui. Et donc, Margaret Thatcher est un personnage... très intéressant, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, quoique quand on veut insulter quelqu'un, on le traite de thatchérien en France.
Oui, et comme je vous le disais il y a peu de temps, j'ai trouvé dans le dernier livre de Emmanuel Todd, Le déclin de l'Occident, une chose qui m'a fait bondir, moi, parce que justement, on devait discuter ensemble de Margaret Thatcher, donc c'est il y a quelques jours, et à la page 211, cet écrivain, dont le bouquin est très intéressant d'ailleurs, moi j'ai bien apprécié, disait tout simplement « Souvenons-nous de la France, la phrase la plus connue de Margaret Thatcher. There's no such thing as society. » Autrement dit, la société, ça n'existe pas. J'ai souvent cité avec raison, tant elle est centrale. C'est très bien, il a raison, ça a été dit, mais ce qu'on oublie toujours dans ce cas-là, c'est que c'est une phrase qui a été tirée d'une entrevue qu'avait eue la Première ministre en 87 avec un journaliste qui travaillait pour un magazine féminin. Donc c'est quand même une entrevue qui avait duré pas mal de temps, hein, puisque le texte intégral qu'on trouve sur le site de la fondation de Margaret Thatcher fait 6 ou 8 pages, format A4. Bon. Donc tirer une petite phrase comme ça, sans dire ce qui venait avant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle disait avant, tout simplement que les gens ont tendance, puisqu'on essayait de... il parlait des problèmes de la société... les gens ont tendance à dire que c'est tout ce qui arrive de mal, c'est de la faute à la société. Or, la société, ça n'existe pas. Ce qui existe, et c'est ce qu'on cite pas après, on se contente de dire la société, ça n'existe pas, en disant c'est une affreuse bonne femme qui ne croit à rien, même pas à la société. La société, continuait-elle, en fait est composée de gens, d'individus qui sont responsables, qui agissent, et c'est l'action de ces gens qui fait aller les choses dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc la société, c'est juste un concept, et on ne peut pas se réfugier derrière si tout va mal, c'est de la faute à la société.
La pauvreté, le système, les conditions économiques, l'exploitation...
Ça a été même repris dans certaines... chanson d'Emago en France dans les années 70 où on blâmait la société pour un oui ou pour un non. C'est pour ça que ça avait pas mal d'écho, je trouve, ce qu'elle disait. Sauf que maintenant, tout ce qu'on a retenu, c'est que cette sale bonne femme a dit des choses horribles comme la société, ça n'existe pas.
Voilà. Et en fait, derrière, c'est pour faire de Thatcher l'incarnation de l'ultralibéralisme ou du néolibéralisme, qui est une espèce de slogan, parce que derrière, on ne sait pas exactement ce que les gens qui utilisent ça comme une insulte veulent dire. Mais on associe en gros Thatcher à néo-ultralibéralisme, à individualisme absolu, donc égoïsme, donc oppression, exploitation, lutte contre les pauvres, etc. etc. On en fait un slogan, en fait.
D'ailleurs, encore une fois, le livre de M. Todd est très bien. Mais c'est sa ligne de conduite, c'est-à-dire que lui, il analyse non seulement la société anglaise, mais aussi la société allemande et tout. Il prend, en gros, l'Occident dans ses différentes composantes. Et si j'ai bien compris son livre, l'idée, c'est que, en fait, tout ça, c'est dû au déclin de la religion. Que ça soit le protestantisme, le catholicisme, etc. Alors lui, il parle de ce qu'on appelle les... on atteint le degré zéro du protestantisme en Angleterre avec Thatcher. Oui, et puis après, ça c'est un point de vue, mais disons que c'est cohérent dans ce qu'il dit, mais par rapport à Madame Thatcher, c'est...
Donc en fait, ce que vous voulez montrer dans votre livre, vous dites d'ailleurs au début que c'est un livre d'images, c'est dresser un portrait qui montre tous les aspects d'une femme d'État qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante politiquement que la caricature de gauche, en gros, qu'on en a faite déjà en Grande-Bretagne et puis ailleurs en Occident, dont en France.
D'ailleurs, vous ne mettez pas l'économie au premier plan, parce que c'est exactement ce qu'on a retenu d'elle, en caricaturant au maximum, comme on vient de le dire. Vous considérez que Margaret Thatcher, l'économie, c'est presque secondaire, j'allais dire, qu'il y a eu plusieurs choses,
l'affaire des mineurs, on pourrait dire que c'est un conflit syndical, mais alors pourquoi un conflit syndical dure un an, de mars 84 à mars 85? Normalement, un conflit syndical, ça dure quelques mois, quelques semaines, quelques mois, peut-être, mais ça ne dure pas un an. Donc là, c'est que moi, je pense que c'est plus un conflit de société, c'est-à-dire deux visions de société, celle incarnée par Madame Thatcher, c'est-à-dire effectivement une société plus libérale par rapport à ce qu'on avait connu dans les années 60-70, ou plus exactement la société consensuelle qui avait été mise en place en Grande-Bretagne, un petit peu aussi en France, mais de manière évidente en Grande-Bretagne, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que finalement, que ce soit les travaillistes ou les conservateurs qui étaient au pouvoir, on avait quand même une société qui était inspirée, qui trouvait son inspiration principale dans le rapport Beveridge sur les services sociaux de 1942, alors qu'il avait été publié, c'était un rapport parlementaire qui avait été publié en pleine guerre, et qui bien entendu essayait de dire il faut, une fois qu'on sera sorti de tout ça, il faut qu'on mette une société plus juste, plus équitable en place. Donc en créant des services sociaux, etc. Bon. Et au départ, comme souvent, c'est une bonne idée, mais vous savez, il y a toujours l'effet de cliquet. Donc on commence avec un certain nombre de mesures, on dit, en contrepartie d'un certain nombre de contributions, on va attribuer des allocations de chômage, des allocations maladie, etc., etc. Et puis après, on en arrive aux situations qu'on a maintenant, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Angleterre, où maintenant le côté contributif ne compte même plus, puisqu'on donne des droits à des gens qui ne contribuent pas. Et parfois plus de gens à des gens qui ne contribuent pas qu'à ceux qui contribuent. Mais cherchez l'erreur. Donc là, il y avait ça, et finalement, elle, en arrivant, il ne faut pas oublier qu'elle arrive après le fameux hiver du mécontentement de 78 à 79, où quasiment tout le pays était en grève, que ce soit dans les services publics ou les services privés.
Et puis toute la décennie 70 a été mauvaise économiquement.
L'industrie britannique était en faillite. L'industrie automobile était inexistante.
Elle existait, mais...
Oui, non, mais bien sûr, mais
elle se tirait des balles dans le pied constamment, notamment avec la fameuse usine de British Leyland dans la banlieue de Birmingham, là, à Longbridge. Situation qui est évoquée dans un des romans de Jonathan Coe, qui s'appelle The Rotters Club, et où le personnage principal du premier roman, parce qu'après il y a une suite, c'est justement un syndicaliste qui travaille là dans cette usine. Et moi, j'ai trouvé un article qui était publié par, en ligne par un gars qui avait travaillé là-bas, qui disait, mais il y avait sureffectif. Sureffectif pour sous-production. Ce qui fait qu'on avait des gens qui étaient embauchés pour faire les 3-8. Alors, ils faisaient les 3-8 alors qu'il n'y avait pas de quoi produire en nombre suffisant par rapport au marché. C'est-à-dire, la demande était faite parce que les voitures n'étaient pas de bonne qualité.
Oui.
Donc, on payait des gens qui venaient dormir à l'usine. Mais je l'ai lu je ne l'ai pas inventé. Il disait
on arrive en 79 et avec, voilà. Elle arrive, elle... Elle arrive au pouvoir dans un pays où la situation économique et sociale était catastrophique.
Exactement.
Et c'est là où elle fait la différence avec les autres, parce que, comme vous dites, elle est, c'est là le caractère de cette femme que vous qualifiez d'hors du commun. C'est qu'elle arrive... alors d'abord, c'est une femme, donc c'est, vous incitez sur ça dans votre livre, c'est que c'est quelque chose d'assez particulier.
C'est à la fois un bien et un mal.
Oui, alors dites-nous pourquoi.
Alors, c'est ce que je disais l'autre jour dans une petite conférence que j'ai faite à Vichy. En fait, en réfléchissant bien, une fois après avoir lu pas mal de bouquins sur elle, notamment des biographies, si j'avais voulu lire toutes celles qui étaient sorties, je pense que j'y serais encore, et le bouquin n'aurait même pas vu le jour encore. Mais j'ai lu les essentiels, on va dire, et il se trouve que je pense que certains, au sein même du parti, parce qu'il faut voir qu'elle perd le pouvoir à cause d'un vote de ses propres...
Oui, elle se fait virer...
Par son parti.
Par son parti, par le parti.
Par la majorité, par une majorité des députés qui décident que enough is enough, on l'a assez vu.
Vous l'expliquez dans un chapitre du livre.
Voilà. Mmh. Et tout ça, je pense que ça... Les germes de tout ça, ça venait, je pense, de son élection à la tête du parti en 75. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 74? Ils perdent, les conservateurs perdent les élections contre les travaillistes. Suite à une grève des mineurs, d'ailleurs. Ça a son importance pour la grève de 84. Parce que là, c'était un peu le match retour, 84. Donc, elle se retrouve à la tête du parti en mars, alors qu'ils avaient perdu alors qu'ils avaient perdu le pouvoir quasiment un an avant, parce que pendant un an le parti hésitait à savoir si on devait reconduire Edward Heath, qui était le premier ministre sortant et battu,
perdant,
voilà, ou est-ce qu'on devait le changer, mettre un autre cadre du parti, un autre... Bon, seulement les cadres, ils préféraient...
Rester en retrait,
ouais. Voilà. Parce que finalement, prendre des balles maintenant, c'est pas le moment.
On l'a mise pour prendre les coups.
Voilà, exactement.
Elle a réussi à s'imposer.
Et elle est montée en puissance, petit à petit.
Ça, c'est le côté, c'est son caractère que vous décrivez dans le livre.
Tout à fait.
Elle a un caractère hors du commun.
Elle saisissait les bonnes occasions. Quand il y avait, elle était opportuniste, mais elle avait le courage de se lancer, comme la première fois elle s'est lancée en politique en 49. À 25 ans, on l'envoie au casse-pipe dans un bastion du Parti travailliste au sud de Londres, une région ouvrière et tout. Bon,
On s'est beaucoup moqué de ses origines modestes.
Alors, ça tient aussi à la société anglaise.
Oui, mais même ceux qui la détestent en France ont repris ça avec beaucoup de bonheur.
Oui, mais ils connaissaient, sociologie de l'Angleterre.
Pour se moquer d'elle, on l'a accusée de singer la reine, etc. On l'a accusée d'être une complexée qui veut à tout prix avoir une image bourgeoise qu'elle n'aura jamais, etc.
Vous Exactement.
Voyez ce petit incise quand même à ce sujet. On n'a sans doute très souvent pas idée en France des rapports de classe, voire de caste,
Exactement.
Qui existent encore aujourd'hui dans la société anglaise, même si on peut, grâce à ça, faire une lecture de l'actualité quand on regarde hier les émeutes à Southampton, dont on a, à mon avis, pas bien la signification si on n'a pas cette idée qu'en Angleterre, il y a des castes, en fait. Mm-hmm. Pas tout à fait comme en Inde, mais sûrement pas comme la société française.
Oui. Tout à fait.
Mais d'ailleurs, ce qui est notable, c'est qu'en France, ceux qui ont saisi ça, cette affaire de moquerie pour la caricaturer encore plus, sont des gens de gauche Et c'est toujours drôle de voir des gens de gauche utiliser des arguments sociaux comme ça pour se moquer de quelqu'un
de mépris modeste. De classe, en fait.
Mépris de, voilà, c'est des gens de gauche qui ont un mépris de classe. Ils se moquent d'elle parce qu'elle vient d'un milieu modeste et ils se disent « Oh là, elle veut singer, elle veut faire la bourgeoise », alors qu'eux sont de gauche, devraient être contents de cela.
De l'ascension de quelqu'un de modeste.
Ouais. Mais rappelez-vous ce que je dis dans le livre à propos de ses études à Oxford, et notamment du fait que alors deux de ses professeurs principaux étaient deux femmes, dont une qui était la responsable de Somerville, le collège où elle était, et l'autre était une brillante chimiste qui a même eu le prix Nobel. Alors, celle qui a eu le prix Nobel disait « Oh, bah, c'était une chimiste bêta, au sens de « c'est pas alpha, oui, c'est bêta ». Elle était capable de faire ce qu'on lui demandait de façon correcte, mais il n'y avait pas de génie de la science, en quelque sorte. Ce qui n'était pas vraiment étonnant d'ailleurs, parce que déjà à cette époque, la jeune étudiante se disait qu'il y avait peut-être plus de choses à faire en politique qu'en chimie.
C'est amusant parce que je crois qu'Angela Merkel aussi avait fait des études de chimie.
Mais c'est vrai, tout à fait.
Enfin, même si les deux ne sont pas tout à fait comparables.
Mais c'est pas tout à fait comme... Mais
on va faire une pause pour le Bobino. Il nous reste 10 minutes et j'aimerais que vous abordiez les grandes batailles, parce que comme vous l'avez, vous le dites dans votre livre, l'économie c'était pas le principal. Il y a elle a mené des batailles importantes et on va les aborder après le Bobino, après la pause.
Tout à fait.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors on reprend cette émission sur Margaret Thatcher et avec Serge Basset, l'auteur du livre donc sur Margaret Thatcher. Dites-nous, vous parlez de votre livre des grandes batailles de Margaret Thatcher qui ont marqué la Grande-Bretagne. Alors on a évoqué, on a donné un aperçu de ces batailles. Il y a eu l'affaire des mineurs, mais il y a eu la guerre des Malouines et puis il y a eu aussi l'IRA.
Alors,
rappelons qu'il y a eu une tentative d'assassinat contre elle, de la part de l'IRA.
Bien sûr. Donc, la veille de son 59e anniversaire, si je me souviens bien, pendant un congrès pendant la conférence annuelle du parti.
Alors, selon vous, quelles sont ces grandes batailles qui ont marqué la Grande-Bretagne et qu'elle a menées?
Alors, la première, je dirais que grâce à l'impéritie des dictateurs argentins, notamment le fameux Galtieri à l'époque, donc le pouvoir des colonels argentins, ça allait très mal en Argentine. Donc, qu'est-ce que se dit Galtieri, qui était à la tête de l'Argentine à l'époque? On va faire une petite guerre, on va aller prendre les Malouines.
Alors rappelons aux auditeurs de Radio Courtoisie, les Malouines, c'est un territoire britannique au sud de l'Argentine.
Alors,
c'est un petit archipel,
alors il faut quand même vous imaginer, alors les Falklands en anglais, les Malouines. Alors pourquoi les Malouines? Parce qu'ils auraient été découverts, cet archipel aurait été découvert par les Français de Saint-Malo. Voilà. Donc, ça a été français, ça a été pendant une brève période espagnol, donc ça a été sous la domination espagnole pendant 10-20 ans, je crois, quelque chose comme ça, au 18e ou 19e, je ne sais plus. Enfin, d'où la prétention des Argentins qui sont les héritiers,
les successeurs des
Espagnols, donc historiquement, ça nous appartient aussi. Bon.
Ah, c'est comme si le Brésil réclame... à la France, les territoires...
La Guyane,
exactement, oui. Voilà. Donc, tout ça, ça commence par cette guerre. On envoie les Argentins...
Les Argentins veulent occuper les Malouines.
Voilà,
ils
envoient des commandos qui prennent contrôle de la principale île. Parce qu'il y a deux grandes îles. Et puis, il y en a 700 autour, mais 700 qui sont
des rochers.
Ouais, c'est des rochers dans certains cas, rien de plus. Et tout ça, c'est dans un endroit assez inhospitalier, parce que, point de vue climat, vous êtes à 1500 km de l'Antarctique, il ne fait pas vraiment chaud.
Oui.
C'est battu par les vents, c'est battu par la pluie, c'est à peu près comme l'île de Sainte-Hélène, vous voyez,
dont
on a parlé à propos de Napoléon Ier, bien sûr, et son climat détestable, mais là, c'est encore pire.
Les Argentins étaient persuadés que les Anglais n'allaient pas déclencher une guerre, tout ça.
Et que, exactement, qu'ils allaient plier et que tout ça allait bien se passer. avec en plus l'attitude non interventionniste des États-Unis, sous l'impulsion de Mme Kirkpatrick, qui représentait les États-Unis aux Nations Unies à l'époque. Mmh. Voilà. Qui voulait préserver les bons rapports avec
le régime argentin.
C'était l'époque du plan Condor, voilà. Et de la résistance contre tous les mouvements communistes. Donc
exactement.
Il fallait préserver les copains. Si
donc, il voulait préserver tout ce qui était sud-américain, dont les Argentins. Donc, on ne voulait pas... Ce qui fait que Reagan, d'ailleurs... qu'on dit toujours être le grand ami de Margaret Thatcher.
Et on les associe d'ailleurs dans la haine de l'ultra-libéralisme.
Alors oui, et du communisme, figures. Tout à fait. Mais il n'empêche que dans les moments critiques, il a plutôt éludé les problèmes. Par exemple, là, au départ, il ne voulait pas s'engager.
Les abonnés absents.
Voilà, exactement. De même que...
les sur-répondeurs.
Alors, mais ça, on y viendra après pour... pour le problème irlandais.
Alors, il nous reste 5 minutes. Alors.
5 minutes, donc il faut faire vite. Donc la guerre, eh ben, effectivement, elle est partie du principe que, et c'est un des grands points que j'essaye de mettre en avant dans le bouquin, c'est que vous avez une femme qui n'est pas seulement une libérale sur le plan économique, mais qui est une souverainiste.
Ça, c'est
un gros mot.
Très oui, c'est un gros mot, mais c'est très important.
Ce qui n'est pas le cas de tous les libéraux.
Exactement.
Et c'est ça, ça casse cette image ultra-libérale qui ne veut rien dire, comme le disait Pierre-Henri. On met tout dedans. Mais en réalité, son souverainisme a tenu beaucoup cette accusation ultra-libérale. Et vous faites bien d'insister là-dessus, parce que c'est, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est un peu ce caractère-là souverainiste. Est beaucoup plus important que les affaires de libéralisme économique.
Tout
vous
à fait.
D'accord.
D'ailleurs, quand on veut citer les phrases célèbres, il y en a une que même les gens de gauche, comme Ken Loach, le cinéaste qui a toujours fait des films plutôt défavorables à Thatcher.
Voilà,
bien entendu.
Engagé.
Engagé.
Parfois mais engagé.
Mais, par exemple, dans un film qui doit s'appeler Secret Défense, qui doit dater de 90, je crois, 1990, qui est sur les problèmes irlandais, justement. Donc, le sujet, c'est ça. Et en exergue, il cite une phrase prononcée par Margaret Thatcher aux communes, qui est « L'Irlande du Nord fait autant partie du Royaume-Uni que ma propre circonscription électorale.
» Alors, elles peuvent beaucoup faire souffrir l'Union européenne aussi, Margaret Thatcher.
Alors, oui,
c'est pour ça aussi qu'on la déteste, peut-être.
Alors, c'est pour ça que Chirac la moquait, mais n'empêche, il se moquait d'elle, mais en disant que c'était la ménagère, etc., qu'elle arrivait avec son petit sac... Il n'empêche qu'elle a obtenu une baisse de la contribution britannique, ce qu'aucun gouvernement français n'était capable de faire depuis. Bon. Donc, quand elle disait « I want my money back », ben, effectivement, elle a fini par l'obtenir. Alors, l'Irlande, les mineurs, on pourrait y passer, mais je crois que dans le livre, j'explique bien ce qu'il en est sur une quarantaine de pages. C'est bien un conflit de société, je pense qu'on peut résumer
de
ça
de
comme ça, de deux modèles de société. D'un côté, avec Scargill, le meneur jusque-boutiste des mineurs, qui ne représentait pas la totalité des mineurs, parce qu'il y avait quand même du côté de Nottingham, les mineurs n'étaient pas en grève. Dans le Lancashire, ils n'étaient pas tous en grève, loin de là. Donc, même s'ils étaient constamment harcelés par les autres qui voulaient que toutes les mines ferment. Bon. Donc, Scargill, le mineur, était aussi un homme politique. D'ailleurs, il le dit carrément dans une déclaration qui prédate le déclenchement de la grève, puisque c'est en juillet 83 qu'il dit carrément « Madame Thatcher vient d'être réélue d'une façon non démocratique ». Parce que les urnes, c'est pas démocratique.
Ça nous rappelle alors, certains
non, mais c'est bien quand
alors,
même la phrase
de gauche. Là, c'était d'autant plus cynique que aucun des premiers ministres qui ont été élus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale n'a obtenu 50% des voix.
Oui.
Ils sont tous passés, vu le système de...
relative avec le système britannique.
Avec le système d'un seul tour.
Oui,
voilà. Ils sont tous passés avec 40 à 45% des voix.
Il suffit d'arriver en tête pour
remporter. Voilà, il suffit d'arriver en tête pour avoir la majorité. Que vous ayez 40%, 45% ou 47%, c'est pareil. Vous aurez la majorité, une confortable majorité.
Winner donc, takes it all.
Voilà. Donc, là, il y avait ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Alors, le temps nous manque. Donc,
ouais, il nous reste moins de 10 minutes.
Pour résumer l'Irlande, l'Irlande, ouais. Alors, l'Irlande, elle ne comprenait pas les Irlandais. Pas plus que un ami avec qui j'ai beaucoup discuté, un ami anglais, qui me disait un jour, moi, tu sais, s'il y a un pays où je ne mettrai jamais les pieds, c'est l'Irlande. Et je lui dis, pourquoi ? Il me dit, too much bad blood between us. Il y a trop de ressentiments.
Oui, bien sûr.
Et c'est vrai qu'il ne peut y avoir que du ressentiment. J'essaye de faire une brève histoire d'Irlande dans le machin.
Dans votre livre.
Dans le livre, on voit bien que les Anglais ont tout fait pour se faire détester en Irlande. Alors après, il y a cette espèce de... comment dire de, d'incongruité qui a une partie de l'Irlande au nord qui reste rattachée au Royaume-Uni.
Et donc, avec toujours des problèmes de fond qui divisent les Irlandais du Nord, évidemment.
Exactement.
Bon, alors, on arrive à la fin, on rappelle le titre du livre, parce que là, on l'a un peu balayé, mais il faut le lire, c'est très intéressant.
C'était pour donner envie surtout aux auditeurs.
Et pour bien rassurer les lecteurs, moi, c'est ce que des amis qui l'ont lu m'ont dit. Ils m'ont dit ce qu'il y a de bien, c'est que c'est clair, et c'est pas un ouvrage doctrinaire.
Oui. Non, il est facile à lire, il est compréhensible.
Voilà. Et c'est fait pour... C'est pas un ouvrage universitaire non plus. Hein. Donc,
on rappelle donc les références, Serge Basset, de votre livre.
Voilà.
Donc Margaret Thatcher, 1925-2013, un itinéraire hors du commun, aux éditions de Bouillon. Voilà. Et on se retrouve, chers auditeurs, dans une semaine pour un nouveau numéro de Culture et Politique.
Merci, à bientôt.
Merci.
Et merci.